Eh bien, de retour dans la camionnette, la Mystery Machine, sous une forte pluie, mais nous on est bien, on est à l'abri. En direct donc sur Radio Coup de Foot 104 FM Carouge et sur Pulse 90 FM à Alençon. Et on a Cyrano qui vient d'arriver dans la camionnette.
Bien, le bonsoir.
Salut.
Salut.
Alors Cyrano, t'as dû commencer beaucoup plus tôt, mais en tout cas t'es référencé en tant que rappeur dans les années 90.
Ça m'est arrivé.
Ouais. Ok, ça marche, et t'as commencé avec un groupe, c'est ça?
J'ai commencé avec un groupe à l'époque, bah, comme beaucoup de rappeurs, on montait des collectifs, certains faisaient des instrus, des autres rappaient, parfois les deux, il y avait des danseurs, des taggers. C'était vraiment l'entrée de la culture hip-hop en France, et voilà, je viens d'un quartier ouvrier, donc clairement ça nous a happé. Et c'est ce qui m'a fait, moi, toucher à la musique. C'est vraiment mon approche de la musique, elle a été faite par les samples et par la musique par ordinateur.
Ouais, sauf que ta musique, à toi, elle diffère quand même vachement du rap français, en tout cas de ces années-là. Enfin, oui. Mis à part le ministère des Affaires Populaires,
ouais, c'est ça.
Tu dois être le seul rappeur français à mettre de l'accordéon aussi dans ton son.
Mais par pur hasard, j'ai rencontré un manager qui était chanteur-guitariste dans un groupe de chansons. Donc on a sympathisé, c'était vraiment un échange humain, quoi. Et en fait, dans son groupe, il y avait un accordéoniste, une violoniste, lui et la guitare. Moi, j'avais un pote guitariste, et en fait, ça s'est fait. Il y a eu une bascule. À un moment, je me suis dit, j'ai envie d'avoir des notes organiques, en fait, d'avoir des instruments qui jouent, parce que comme je faisais beaucoup de sons, j'étais beatmaker, quoi. Je me retrouvais à fonctionner avec des samples et à avoir des morceaux de 3 minutes 47 qui faisaient 3 minutes 47 sur scène. Donc c'était un truc aussi un peu sclérosant. Et avoir des instruments, ça m'a permis de jouer avec ce truc-là. Et puis j'ai renoué avec une sorte d'héritage à travers ça, qui était la chanson de Brassens, de Ferré, de Brel, voilà, que j'écoutais petit, en fait, tout simplement. Donc j'ai, à la suite de ça, rencontré La Rue qui est à nous, Debout sur le Zinc, des groupes de chansons alterno, qu'en fait je connaissais pas du tout. Et pareil, du coup, j'ai eu un vrai coup de cœur humainement, en fait, avec ces gars-là. On ne s'est pas quitté depuis, et c'est un truc que j'ai gardé dans ma musique aussi. Ce qui a fait que j'ai pu continuer aussi, c'est qu'on m'a associé souvent au groupe Java.
Ouais, c'est vrai.
Et eux m'ont vraiment mis sur scène. Ils m'ont aidé. Ils m'ont dit viens avec nous, interviens dans les concerts, tu vas venir avec nous. J'ai fait l'Élysée Montmartre, machin. Alors j'avais jamais touché un micro. Je faisais des concerts, mais voilà, une foule à Paris avec la pression que ça représente. Un concert de Java à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs. C'est quelque chose. Donc du coup, c'est vrai, c'est mon école qui a changé de quartier, quoi. On va dire.
Ok.
Alors, t'as des textes très engagés quand même.
J'ai gardé ça du rap. J'arrive pas à écrire, même si c'est parfois totalement de la chanson. J'arrive pas à ne pas mettre des pointes de vraiment de d'engagement.
Quelquefois, ça attise un petit peu d'agacement de la part de certaines personnes. Tu disais en antenne que
on peut en parler. Oui, j'ai fait un morceau qui s'appelle Jordan Bardella, où en fait je parle pas forcément de lui et uniquement, je parle de ce qui amène dans la société à un mec comme lui, ce qui est pour moi une espèce de petite monstruosité, une crotte de nez qui dévisage le paysage français, quoi. Mais tout ce qui amène le manquement, les renoncements, les démissions de plein de gens qui amènent à ce qu'un gars comme ça puisse avoir pignon sur rue et en fait parle à la jeunesse, ce qui est très dangereux pour moi. Ça parlait de ça, le morceau. J'ai sorti le morceau mi-mars, et une semaine plus tard, du coup, j'avais en effet tous mes réseaux sociaux qui avaient été piratés, ou en tout cas avec des attaques ciblées de l'extrême droite. Et voilà, je me fais des copains. Voilà, c'est génial, c'est un beau pays.
Oui, c'est ça, t'as sorti ton 8e album, si je me trompe.
Exactement.
Pas, fin 2023.
Oui.
Ouais. Cet album, il s'appelle Scaphandre.
Oui.
C'est ça. Et le nom expliquerait bien tout l'album.
Oui, je pense. En fait, j'ai parsemé de petites notes un peu spatiales, on va dire, avec soit dans les textes, soit dans la musique. Il y a des petits clins d'œil, en fait, à ce titre. Mais pour moi, le scaphandre, c'était le scaphandre dans lequel tout le monde est enfermé, individu isolé au milieu d'un monde hyper globalisé. Donc c'est un peu l'isolement qu'on peut ressentir. Et en même temps, c'était cet isolement où on est un peu perdu dans l'espace, au milieu de rien. Et les grandes questions qui arrivent, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi moi? Puis en fait, je pense que tous les humains se posent cette question-là, ce qui amène, je pense, en fouillant un petit peu, à toutes les questions de quête de pouvoir, de vouloir toujours plus, de consommation, de capitalisme, et qui en fait sont liées à la peur de la mort, la peur de vivre, la peur d'exister juste au milieu de la nature, sans dénaturer quoi que ce soit, et sans prendre pour soi l'idée que on doit absolument maîtriser tout et être maître de notre environnement, ce qui n'a pas de sens. Ça parle de tout ça, en effet.
Ok. Et côté création, cet album, tu l'as fait avec qui?
Eh ben, je l'ai fait avec mes musiciens, donc Patrick Nela, Maxime Raguin, et puis j'ai beaucoup fait seul. Et en fait, on a fonctionné un peu comme on faisait au début. J'ai récupéré un peu cette notion-là pendant le Covid, pendant les confinements. J'avais préparé un album, avant le Covid, je devais sortir un album qui n'est jamais sorti. Pendant les confinements, j'ai recomposé un truc et j'ai tout enregistré à la maison, un peu à l'arrache, en bricolant, machin. Ce qui m'a en fait fait renouer avec la façon dont je bossais au tout début et qui m'a vachement plu, ça m'a amusé. Et je me suis dit, en fait, l'important là, c'est de s'amuser. Donc quand on crée, c'est de proposer un truc où en fait, il y a une effervescence, quoi. Et j'ai retrouvé ça, j'ai gardé ça pour faire cet album-là. On a enregistré à la maison, on a enregistré... sans aller en studio, machin. Même le studio où on a mixé, j'y suis pas allé, j'ai laissé le gars faire. Je me suis dit, moi je fais de la musique, je fais mes trucs, et puis après, il y a des voix qui viennent des maquettes, en fait. Et en fait, je trouve ça cool d'avoir une espèce de spontanéité qu'on n'a peut-être pas quand on est en studio avec le stress d'être avec un ingé son, machin, tout le processus. En tout cas, moi, ça me fige un peu et je trouve ça un peu chiant.
Ok, j'ai cru comprendre que t'étais un D, donc t'as
ouais,
ton propre label.
Voilà.
C'est ça.
Exactement.
Ton propre label que t'as créé il y a longtemps.
Il y a longtemps.
Ouais.
Il y a quasi 20 ans, ouais.
Mm-hmm. Et du coup, cette liberté artistique, c'est quand même important à tes yeux.
Oui, ouais. Oui, oui. Je pense que du coup, je peux dire ce que je veux. Quand j'ai envie de sortir quelque chose, je le sors. Des fois, je devrais réfléchir avant de faire les choses, mais je le fais quand même et je me dis, c'est pas grave en fait, je propose quelque chose et puis ça répond pas, il y a un écho, il y a pas d'écho, c'est pas très grave en fait en soi. Ce qui est important, c'est que du coup je sois pas limité quand notamment par exemple je fais un album, je réfléchis la chose évidemment, mais comme on fait tout de la pochette à l'enregistrement, voilà, on n'a pas d'influence qui va nous amener une espèce de questionnement commercial par rapport à tout ça. Je ne me prends pas la tête à savoir si ça va plaire à telle ou telle personne. Ça me plaît à moi, ça sort. Le reste, c'est pas mon problème.
Oui,
en fait.
On verra bien
ouais.
La réaction du public.
Oui.
Mais t'as pas fait que des albums, t'as fait plein d'autres trucs en fait. Et je me demande même comment tu fais pour faire des tournées avec tout ça. T'as écrit des livres,
ouais.
T'as fait des spectacles, t'as une web série, t'as
ouais.
fait des courts métrages, ouais, énumération.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, des trucs dont je me souvenais pas. Oui, il y a un moment où tout est lié souvent à des questionnements qu'on m'apporte. Je me rendais compte parce que je fais beaucoup d'ateliers d'écriture dans les écoles ou des assos et tout, et je me rendais compte qu'on savait pas ce que c'était en fait d'être artiste. La majorité du temps on voit de l'artiste la personne qui va passer à la radio ou en clip à la télé, donc pour les gens, la majorité du public, ça va être ça. Donc on voit pas le processus en fait, et en me documentant à l'époque, ce qu'on entendait de la musique, donc sur les radios mainstream, les médias mainstream, ça représentait 5% des gens qui vivaient de leur musique en France. C'est rien. Et la majorité des gens qui vivent de leur musique, c'est des gens qu'on croise sur les festivals, et voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais montrer ce truc-là. Et j'ai entrepris de faire... de filmer tout le temps, en fait. Je filmais constamment ce qui se passait, les balances, les machins, les interrogations qu'on avait... des interviews, des voilà, tout ce qui était la vie au quotidien d'un artiste indépendant, et expliquer à travers tout ça ce qu'était la vie d'un intermittent du spectacle aussi, avec tous les questionnements, des remises en question évidemment, et puis les moments mortels justement de liberté qu'on a, quoi.
En parlant de liberté, qu'est-ce que t'en penses du festival là où on est aujourd'hui à Cirel, le Blizzard?
Moi, il devrait y avoir que des événements comme ça partout en France, en fait. je viens de Chartres, et c'est une région où il n'y a pas forcément ce genre d'événement, ou en tout cas pas installé, c'est pas enraciné vraiment. Les gens ont du mal à aller découvrir et à être dans une certaine curiosité. Que des gens s'affairent à monter des festoches comme celui-ci, le fassent vivre, c'est la 15e édition, subsiste, et en plus, du coup, évidemment, ça peut pas être égal tout le temps. Il doit y avoir des moments de bad, des moments où c'est moins réussi, des moments et ça continue. Je trouve ça, comment dire, je suis envieux de ça, moi, en fait. Je me dis, je crois que je fais plein de trucs, mais il y a un truc que j'ai pas fait, c'est un festoche.
La moitié des festivals l'année dernière en France ont creusé un déficit. Est-ce que c'est une situation qui t'inquiète particulièrement? Et toi, en tant que musicien et à force de parcourir les festivals, comment tu expliques tout ça?
Je pense que il y a la pandémie qui est passée par là, évidemment, la situation qui a été compliquée pour tout le monde, et où on a couper les publics, on a tronqué les budgets parce que ça pouvait pas fonctionner. La reprise a été assez compliquée finalement. Moi, j'ai décidé de pas retourner sur la route à ce moment-là parce que je voyais plein de copains qui voulaient retourner sur scène, ce qui est tout à fait normal. Mais ça faisait entonnoir, et beaucoup de gens qui faisaient 40 dates, 50 dates à l'année avant se retrouvaient à faire 20 dates parce qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde, ce qui est tout à fait logique. Mais j'ai l'impression qu'on est resté dans cette logique-là, avec des gens qui restent plus facilement chez eux, qui ont d'autres modes de consommation et qui vont plus remplir les salles de concert et les festivals. Donc du coup, ça m'inquiète en ce sens-là. Pas pour moi en tant qu'artiste ou pour pérenniser mon activité, machin, mais plutôt pour ce que ça veut dire pour le public, pour les gens. C'est-à-dire que ça sous-entend que on est bien chez soi et que ça régresse encore en termes de réflexion collective et d'échange et de moments de partage. Et ça c'est dangereux. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Je pense.
Et l'équipe du Blizzard là a pris une initiative que je trouve à titre personnel plutôt intéressante, c'est de faire une entrée à prix libre et consciente. Oui. C'est en phase un petit peu avec les valeurs que tu portes dans tes chansons. Est-ce que c'est initiative que tu salues, est-ce que tu trouves ça dangereux?
Non, mais c'est mortel, ça permet à tout le monde de venir. Et je sais aussi qu'on est dans un monde où, quand on ne met pas un prix fixe, on prend le risque que les gens se disent si c'est pas cher ou si c'est même gratuit, c'est moins bien. Ce qui est complètement ahurissant. Au lieu de voir l'opportunité, ils voient une espèce de... Tout doit avoir un prix, en fait. Et c'est le mal de l'époque. C'est peut-être même le pire en pire, quoi. Le mec optimiste.
Moi, j'avais une petite question par rapport à tes influences et par rapport... quels sont les artistes qui t'ont inspiré?
Le Wu-Tang.
Mais bon, je trouvais que dans tes sons, tu poses pas trop comme Old Dirty Basta.
Non, c'est clair.
Je me suis dit, il a sûrement une autre source d'inspi.
Non, mais il y a plein d'inspirations. C'est extrêmement divers. Je peux entendre des trucs. En fait, c'est même par période. Je vais écouter beaucoup de folk, ce qui a rien à voir. J'adore Arcade Fire. Rien à voir avec le rap des années 90. Et je pense que quand j'écoute des trucs, je pense que ça arrive à plein de gens. On nourrit un peu ce qu'on fait soi-même en se disant « Ah, j'aimerais bien faire un truc qui déborde un petit peu vers ce... » Donc, des fois, ça se métisse, en fait, avec... ça peut aller d'Arcade Fire à Jacques Brel, de Wu-Tang Clan à, je sais pas, à Portishead, de Björk. J'aime plein de styles musicaux. Je pense que c'est plutôt... Les artistes qui vont proposer quelque chose où ça me touche, tout simplement. Et après, le style de musique, je m'en fous. J'adore la musique trad, la cumbia traditionnelle. Je trouve ça mortel, et voilà, des fois j'en mets un petit peu comme ça.
Dans tes instruments, un petit peu de cumbia.
Je saoule les gars avec ça.
Ah, on met de la cumbia. Je suis
avec la cumbia.
Bon, merci. Oui, enfin, je pensais plus à des artistes rap. Au niveau des influences, il y avait des artistes français dans le rap qui t'avaient inspiré, qui t'avaient donné envie de poser, parce que poser rap, c'est un choix que t'as fait toi.
Bien
donc, il y a sûrement des gens qui ont dû te donner cette envie.
Bien sûr. Bah, moi, je suis de l'école, on va dire, IAM. Le moment où le rap est arrivé en France. Et être devant un morceau d'Akhenaton et chercher dans le dictionnaire les mots, en fait, ça nourrit, et je pense que ça a été vraiment salutaire. Évidemment, on peut pas responsabiliser les rappeurs par rapport aux gens des quartiers, etc. Mais en fait, c'est vraiment un point important de la culture et des repères par rapport à un moment où socialement il y avait pas grand chose qui nous représentait, et on s'est retrouvé d'un seul coup avec des gens qui parlaient de ce qu'on vivait au quotidien et qui en parlaient bien, qui en parlaient avec poésie, qui en parlaient avec du vocabulaire avec intelligence et avec des analyses, etc. C'est évidemment plus beaucoup le cas. Il y en a évidemment, il y a des rappeurs qui sont, mais ce sont maintenant les rappeurs alternaux, alors que les rappeurs qui ont pignon sur rue vont
voilà, vont dire un peu
ouais,
peu de la merde,
voilà, ce qui va faire vendre pour les gamins, c'est quoi ça. Mais c'est plus la recherche, peut-être. Donc, que même ce truc un peu contestataire qu'avait le rap, je pense que ça tourne tout le temps. C'était le punk 10 ans avant, c'était le rock encore avant, ça tourne, ça passe sur d'autres styles musicaux. Le rap, c'est devenu la variété.
Maintenant, on est plus sur la techno.
Ouais, voilà. Il y a des courants alternatifs qui vont être plus dans l'engagement. En fait, je pense que c'est au-delà du discours, même dans les paroles, tu as l'engagement de vie, en fait, tout simplement. La façon de vivre, tout ce truc.
Je me rappelle qu'à l'époque, on me disait qu'aux États-Unis, le rap, en fait, c'était la musique qui permettait d'éduquer les jeunes, les gens qui n'avaient pas les moyens forcément d'aller faire des études et des choses comme ça. Tu es d'accord avec moi là-dessus?
Oui.
Aujourd'hui, bon, c'est plus trop le cas. Mais c'est vrai qu'à l'époque d'IAM, les premiers albums, comme tu dis, en fait, c'était ça. C'était en fait, il prévenait de ce qui se passait, en fait, dans les quartiers et tout ça.
C'est une forme de journalisme, c'est une contre-culture.
Exactement.
À partir du moment où l'art ne devient plus une contre-culture, c'est une production mercantile, et ça devient un objet de consommation. Donc c'est ce qui se passe avec le rap aujourd'hui. Après, tu as toujours des artistes qui émergent. Aux États-Unis, évidemment, on a connu des Tupac ou des gars comme ça, ou Tang et tout ça, mais des gars comme Kendrick Lamar aujourd'hui font aussi ce travail-là. Il y a une vraie incarnation de ce qu'est la société pour la jeunesse noire américaine là-bas, mais dans les quartiers, il y en a évidemment en France aussi, quoi.
C'est vrai. Bah, je pense qu'il a très très bien répondu à ma question.
Carrément. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Content de jouer du coup sur la scène du Blizzard.
Bah, trop bien. On est hyper content de reprendre la route et puis de remonter sur scène, de rencontrer des gens à nouveau. Parce qu'on avait vraiment fait une pause pour préparer tout ça. Mais voilà. On a fait le premier concert il y a une semaine. On était fébrile. Parce que remonter, c'est un peu redécouvrir des mécanismes, se retrouver nous les uns les autres. Et on est trop content de venir voir les gens. C'est trop cool.
Et ben, ça marche, on peut te retrouver, je crois, à 20h50,
je crois.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça. Sur la scène, la grande scène du Blizzard.
Stage. C'est ça.
Ouais.
À l'abri.
Tu joues encore le morceau à gauche, à droite ou pas?
Non, le genre.
Ah, ça donne un beau
après,
il m'a remarqué.
Il suffit d'écouter les paroles du reste, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein.
Je pensais qu'il allait dire exceptionnellement ce soir pour toi.
Parce que j'ai un gros problème, c'est qu'il faudrait que je me souvienne des paroles.
On l'a dit en antenne, on en a parlé, mais je crois pas qu'on en ait parlé tard en direct.
Non.
Mais en fait, ce morceau, on l'avait utilisé pour une série d'interviews qu'on avait fait des candidats aux élections présidentielles. Je crois que c'était les élections de 2012. Et on l'avait utilisé pour comme habillage, pour comme générique, et petit morceau en virgule entre les interviews.
C'est cadeau.
Et ça nous avait fait bien marrer parce que les paroles étaient vraiment super pertinentes. Et je sais qu'il nous arrive encore très régulièrement de le diffuser sur Pulse, parce que ce morceau, il nous a vraiment marqué.
Ah bah, ça
quoi.
Me fait plaisir. Parce que c'est pareil avec ce morceau-là, je me suis fait plein de copains. Hein,
ah ouais.
Des concerts, des gens, ils me disent comment ça, tu votes pas? J'ai dit bon, alors on va y parler, on va discuter. On avait de longs débats.
Mais j'imagine avec l'ambiance générale qu'il y a sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, où les gens, pour la moindre petite virgule qui est mal placée, s'invectivent et tout, tu dois avoir régulièrement des gens
ça
qui.
Ah ouais, je me fais insulter, ouais, c'est cool. Ouais. Bah, oui, mais après j'aime bien l'idée de.
Faut quand même avoir le cœur solide pour ouais. être musicien engagé comme ça, t'en fous.
Ou s'en foutre complètement.
Ouais, je pense que c'est ça, moi j'en ai vraiment rien à foutre. La bêtise ne m'atteint pas. Quand je vois que les gens sont stupides, je me dis bon bah écoute, tant pis, trace ton chemin. Si les gens sont intelligents, je me dis mais c'est même pas l'endroit où débattre en fait. C'est internet, tu te caches derrière un écran, voilà. Ça finit en insulte assez rapidement, mmh. voire. Donc je m'amuse, en fait, je m'amuse de ça, j'envoie des emojis toilettes ou caca.
Ça va,
certains de ces morceaux suscitent le débat comme ça, c'est déjà une forme de victoire en fait.
Oui, moi ça
fait un peu réfléchir les gens.
Oui, le fait d'avoir été censuré d'une certaine manière, ou en tout cas attaqué à la suite du dernier morceau là, ça fait chier, hein, clairement, parce que pour communiquer avec les gens, c'est évidemment compliqué quand t'as plus de réseaux sociaux. En l'occurrence là, c'est ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Ça saoule, mais dans l'absolu, je me dis bah s'ils ont réagi tout de suite, c'est que
ça a dû faire un choc.
Ouais, je me disais c'est que ça pique et on est là pour ça. Donc je pars des trucs et on va pas s'arrêter là.
Génial, on attend que ça alors.
En tout cas, moi je suis pressé de vous voir sur scène.
Ouais.
Et puis j'étais pour dire tout à l'heure, oui, ça va un peu avec la musique que tu fais, parce que qui peut prétendre faire du rap sans prendre de position? T'as la ref.
Tout à fait.
Tu l'as cette ref, elle est pas de moi.
Non, mais c'est je suis complètement d'accord. Mais qui prétend être artiste sans prendre position?
C'est vrai.
Je pense que c'est valable pour plein de choses. Et d'autant plus maintenant, je pense qu'on va, avoir. On en parlait encore sur le chemin, mais j'ai la sensation que l'ambiance générale dans ce pays, en tout cas, va nous pousser, j'ai l'impression, à choisir un camp, en tout cas à être. C'est terrible de plus pouvoir être dans une nuance, mais d'être obligatoirement pour
dans
contre.
Une case, ouais.
Et malheureusement, vu la montée de ce qui se passe, qui est populiste, voilà, et raciste clairement, et qui pousse à la punchline et au moins de réflexion possible. Je crois que le fait de parler paisiblement, en essayant d'expliquer, machin, en étant intelligible, ça marche plus. Les gens ont plus l'attention pour ça et préfèrent être abreuvés d'un truc qui dure 10 secondes. Donc c'est hyper compliqué d'être dans la subtilité. Et pourtant, je pense que c'est souvent intelligent que d'être subtil, de prendre le temps.
La subtilité est une forme d'intelligence.
Oh, complètement. Et c'est vrai que du coup, avoir une tribune sur scène comme ça, un moment, tu vois, t'es une heure et demie avec les gens, et puis tu peux même discuter. Ça m'arrive de juste parler avec les gens. Je trouve que c'est hyper, hyper important qu'on réussisse à faire perdurer ces moments-là.
C'est vrai que en plus beaucoup d'artistes maintenant, enfin il y a beaucoup d'artistes qui le font plus, ça, l'interaction avec le public,
ou qui disent même plus au revoir à la fin du concert.
C'est toujours bon d'avoir encore des artistes humains, entre guillemets, j'ai envie de dire.
Je vais me mettre dans le tas, mais on est plein. on est légion, et je pense que c'est juste en effet que la société et le mode de consommation de musique, la façon dont ça se passe, laisse moins place. C'est vrai qu'au début des années 2000 jusqu'aux années 2010, il y avait énormément de place pour cette frange d'artistes qui avait un message, qui critiquait la société et qui faisait se fédérer aussi les gens. Mais ce qui m'est arrivé avec mes réseaux, c'est arrivé à HK, c'est arrivé à un copain qui s'appelle Ali. Je veux dire, on est plein dans l'ombre en fait, mais c'est pas grave. Du moment qu'on touche 10 personnes.
Même une personne, c'est déjà ça.
Oui, oui. Et ça reviendra.
Mais vous avez, que ce soit toi, Ali ou HK, vous avez quand même, je pense, un bon public qui reste présent. Et ce public, ils connaissent des gens, qui connaissent d'autres gens.
Exactement.
Et ils sont peut-être pas présents tout le temps, mais je pense que dans leur conscience, ils sont présents sur la même route que vous.
C'est toujours ça qui est incroyable, c'est de manière très égotique, hein. Mais quand t'es artiste, finalement t'es en marge, t'es un peu tout seul dans ton coin à faire tes trucs, tu les proposes de temps en temps, mais t'as jamais vraiment de retour et t'as pas trop d'interaction sociale directe avec les gens. Quand tu vas en concert ou quand tu fais des rencontres, des ateliers, des trucs, t'as là le retour de ce qu'est le rôle social de l'artiste. Et c'est là que je pense que c'est important d'être et d'avoir les oreilles ouvertes et d'être attentif, parce que c'est là qu'on te renvoie ce qu'est la société, en fait.
Mmh. L'inspiration.
Si nous, on est des sortes de baromètres en exprimant quelque chose, on peut être une voix pour des gens qui ont leur quotidien, qui ont pas l'énergie d'aller s'exprimer, et c'est précieux du coup. Voilà.
Et bah, sur ces belles paroles, merci beaucoup.
Merci
Cyrano.
Beaucoup.
Bah, merci à vous.
Et si j'allume pas mon micro forcément. Et ben moi je propose qu'on écoute le morceau Quitter le béton. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Le titre est assez explicite, mais oui, c'est l'envie de partir de la grisaille. Et bon, à travers ça, je parle évidemment de tout ce que représente la grisaille.
Il n'y avait pas que la pluie.
Non, le côté abrutissant de la ville et puis c'est fuir aussi la société en elle-même, quoi. Je rêve comme beaucoup là d'une maison dans les bois et de chèvres.
Eh ben merci Cyrano.
Merci à vous.
À plus.
Merci beaucoup et bon concert à toi.
Merci.